Amphidamicus. Aujourd'hui, Maître Christian Huglot, cofondateur du cabinet Huglot-Lepage, avocat spécialiste des questions relatives au droit de l'environnement, nous présente les grands fondements du droit de l'environnement. Cinquième épisode, vers un droit universel face à l'impératif climatique.
Bonjour à tous et à chacun. C'est vraiment le point de l'évolution le plus intéressant du droit de l'environnement, parce que c'est un mouvement qui se dessine sur toute la planète et qui est plein d'espoir, puisque de toute façon, comme on l'a toujours vu en matière de droit de l'environnement, le moteur, c'est la société civile et c'est les juges. Pourquoi les juges ? Parce que les juges ont une parole qui est construite sur un point très particulier, le contradictoire, la connaissance scientifique des choses, la motivation des décisions. Et ce sont des points de repérage très importants, comme on va le voir, suivant des systèmes juridiques très différents. Système anglo-saxon, système chinois, même si vous voulez, système asiatique, mais ils disent tous la même chose.
Alors bonjour, je m'appelle Benjamin et j'avais une petite question. J'aurais voulu savoir si vous pouviez me dresser une cartographie de la justice climatique.
Alors, une cartographie, c'est-à-dire d'essayer de savoir quels sont les tribunaux des différents États qui produisent le plus dans la justice climatique. Alors, la première vérité, c'est que sur les 1200 décisions rendues à peu près actuellement, ça bouge tous les jours, la plus grosse partie, c'est dans les systèmes anglo-saxons et notamment aux États-Unis. Aux États-Unis, pour une raison très simple d'ailleurs, pour contrer la politique du président Trump sur ce sujet, qui est un climato-sceptique avéré et qui a révolté les juges. Les juges aux États-Unis, c'est des juges fédéraux, ce sont des personnages qui ont beaucoup de collaborateurs, qui ont des pouvoirs immenses. Et donc, les juges se sont mis en tête de travailler sur la question climatique. Après ça, vous avez l'Australie, un petit peu la Nouvelle-Zélande, vous en avez en Amérique du Sud, vous en avez un peu en Europe. On va en parler là, avec la célèbre affaire Urgenda qui vient d'être confirmée en appel. Et vous en avez même en Chine. D'ailleurs, j'étais faire un voyage en Chine. On s'aperçoit qu'il y a une Cour suprême qui est une chambre spécialisée en matière d'environnement. Et les plaintes climatiques commencent à arriver. Mais ce n'est pas du tout le même système que chez nous. C'est-à-dire, ce sont des procès qui sont faits entre entreprises, notamment parce que leur matériel n'est pas conforme aux exigences du climat. Mais nous, c'est tout à fait autre chose. Ce qui se passe, c'est des grands procès contre la puissance publique qui ne fait pas son travail. Est-ce qu'on a dit les procès en carence? Vous deviez atteindre tels objectifs. L'accord de Paris vous dit que vous devez être à 2 degrés dans telle époque. Vous ne l'êtes pas. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous ne bougez pas? Ce qu'on appelle les procès en carence, responsabilité de la puissance publique. Puis alors, il y a les procès en série aux États-Unis qui sont déchaînés actuellement en Californie. Des quantités de villes attaquent Exxon, Chevron, les grandes compagnies pétrolières pour dire vous nous avez menti pendant des années. Et donc, par conséquent, vous êtes responsable, effectivement, de la montée du niveau de la mer qui va arriver, etc. Vous avez des procès à New York sur ce genre de questions. Alors, ce qui est passionnant, si vous voulez, c'est de voir que, en définitive, c'est quand même curieux comme question, le réchauffement climatique, c'est un phénomène global qui concerne toute la planète. Pourquoi un juge se déclarerait compétent à un endroit déterminé, alors que le dommage est collectif ? Je pense que la réponse à cette question, c'est qu'ils ont conscience de leur devoir et de la nécessité d'anticiper, de faire jurisprudence. Deuxième question, c'est que les juges laissent passer facilement ce qu'on appelle, ils acceptent leurs compétences pour un phénomène planétaire. Ça nous rappelle un peu le juge italien dans l'affaire de la montée d'Isonne, la pollution de la Corse, dans laquelle il dit bah, « oui, c'est la mer internationale, mais je me considère comme compétent ». C'est quand même quelque chose d'intéressant comme compétence dans l'espace et dans le temps. Et puis, il y a toutes les questions de procédure, de preuve, qui sont des questions extrêmement délicates. Et on voit très facilement que les procès les plus faciles à établir sont les procès dans lesquels on démontre l'insuffisance d'action des pouvoirs publics. Parce que le lien de causalité entre le dommage que je pourrais subir. Il y a un agriculteur péruvien qui a dit « le glacier au-dessus de chez moi va fondre, et je considère que c'est l'entreprise allemande qui produit du charbon qui va me créer ce dommage ». Mais quand on regarde ce que disent les experts, ils sont responsables du réchauffement climatique, cette entreprise qui s'appelle RWE, à 0,47%. Comment expliquer que ces 0,47% se mettent sur ce glacier en particulier ? Donc, ce sont des procès abstrait, relativement ténu, et vous allez voir qu'effectivement, ils font appel à des références fondamentales au droit naturel et à un droit qui doit s'établir dans quelques années.
Bonjour, je m'appelle Rachida et j'ai une question sur la biodiversité. Alors, quelles sont les solutions qui existent pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ?
Alors, je dirais, pour cette question, c'est une question de politique d'abord, État par État, bien entendu. Hein. Et quand la France invente ce qu'on appelle la compensation écologique, c'est un modèle qui peut s'établir. Mais ce qui est intéressant pour la justice climatique, c'est que plusieurs décisions ont déjà été rendues sur des points importants, c'est-à-dire sur ce qu'on a l'obligation d'introduire dans l'étude d'impact international pour les grands investissements industriels, les grands investissements agricoles, la dimension climatique. C'est-à-dire que, pratiquement, on va retrouver dans la jurisprudence internationale les mêmes critères d'exigence de compensation. C'est ça qui est en train de se produire. Et l'obligation d'évaluer les risques. Donc, on ne va pas y arriver tout de suite. On ne va pas y arriver tout de suite sur la transition, sur la biodiversité, c'est plus facile, c'est plus difficile, c'est plus long terme. Pour la transition énergétique, c'est quand même l'obligation de ne pas utiliser un certain nombre de carburants, de produits, etc. Et donc, on voit déjà dans la jurisprudence des restrictions et les procès qui sont faits aux compagnies pétrolières aux États-Unis, c'est quand même quelque chose de terrible. Moi, j'ai lu les assignations. Les assignations, c'est une accusation de mensonge, de tricherie et de profit à très court terme. Le vrai problème qu'on va avoir là-dessus, il est très simple, c'est que la richesse des grandes compagnies pétrolières est établie sur leurs réserves. Et donc, si leurs réserves ne peuvent plus être évaluées, ils ne valent plus rien. C'est là où on a la difficulté. Il faudra arriver à sortir les réserves pétrolières, si j'ose dire, du patrimoine de ces grandes sociétés. Et donc, on attend la jurisprudence là-dessus.
Bonjour, je m'appelle Stéphanie et je me demandais comment le droit pouvait s'adapter aux grands enjeux de la transition énergétique alors qu'il est par nature global et universel. Merci.
Alors, ce n'est pas simplement le droit qui peut s'adapter, je crois que c'est les pratiques. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est intéressant sur la transition énergétique, c'est de sortir des réseaux et de sortir d'un certain nombre d'activités. Et vous avez des initiatives extraordinaires prises dans différents pays par des associations pour arriver à aller vers le renouvelable. Ce n'est pas en France, avec le monopole d'EDF sur le nucléaire et autre chose, qu'on va y arriver facilement. C'est quelque chose, la situation de la France est tout à fait particulière là-dessus. On est un peu branché sur ce modèle-là et on ne développe pas suffisamment les énergies renouvelables, à la différence de l'Allemagne qui, dans quelques années, va avoir 40% d'énergies renouvelables. Nous, on est à 13-15%. Alors, je dirais que ça se fait par petits pas, plutôt que par des procès globaux, c'est sur des opérations particulières, interdire par exemple certaines activités, ce qui a été fait notamment en Afrique du Sud, pour des énergies polluantes. Je sais que par exemple aussi en Australie, un certain nombre de centrales à charbon ont été fermées pour des raisons de ce genre-là. Par contre, actuellement en Chine, on voit se développer beaucoup l'industrie du charbon, ce qui n'est pas rassurant, mais il y a eu déjà, et c'est en route déjà, des procès faits par les îles qui risquent d'être submergées, les îles Fidji et autre chose, pour interdire des investissements nuisibles dans d'autres États. Et on attend beaucoup d'avis de l'Organisation des Nations Unies sur ce genre de questions-là pour essayer de répartir effectivement les effets d'une transition énergétique négative. Il ne me reste plus qu'à vous quitter avec regret, si j'ose ainsi m'exprimer.
Ce cinquième épisode des Amphidamicus a été préparé avec l'aide de Sarah Albertin, Camille Bloomberg et Olivia Cross, avec à la réalisation Alban Lejeune. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet amicus-radio.net, rubrique Les Amphidamicus. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission et de nous suivre sur les réseaux sociaux.